Brisons la glace.
Eh bien, bonsoir et bienvenue à tous pour cette nouvelle émission de Brisons la glace, le podcast francophone de Norvège. Nous revenons ensemble chaque mois sur des sujets de société, d'histoire et de tech, mais également à tout ce qui peut faire l'actualité à Oslo et en Norvège. Nous sommes le mardi 9 janvier et je suis ravie de vous accueillir pour la toute première émission de l'année. Bonne année à tous !
Bonne année, bonne année.
Nous sommes de retour dans les studios de Björvika et autour de la table aujourd'hui nous avons Valentin. Bonsoir Valentin.
Bonjour à tous.
Bien, la technique ce soir comme presque tous les soirs, Emma. Bonsoir Emma.
Bonsoir.
Tout va bien ?
Tout va bien.
Autour de la table aussi, nous avons Stan.
Bonsoir.
Pour ta première chronique, tu vas nous parler d'un prix Nobel.
Oui, je vais vous parler du prix Nobel de la paix.
Super. Et enfin, nous avons la chance ce soir d'accueillir Thomas Lindbo. Bonsoir.
Bonsoir.
On va revenir sur ton travail et ouais. sur tes traductions. On a vraiment hâte de te connaître et de parler de ce lien qui existe entre la littérature française et la littérature norvégienne. Pour commencer, on était obligé de parler de la météo.
Qu'est-ce que c'est que ce pays? C'est pas possible. Il fait au moins, moins 8000.
C'est vrai qu'on se plaint tout le temps, mais là, c'est vrai que ça a été
il
assez...
Fait froid. Même pour un Norvégien de souche.
Ouais, moi, j'aimerais qu'on parle du mystère de la température qui n'était... à la même heure, vendredi, mon téléphone, donc l'application IR, indiquait moins 15. Météo France indiquait moins 25, carrément, on était sur une différence de 10. Mon autre application de téléphone disait moins 19. Et une copine, moi j'habite à Toyen, qui habite à Kampen, elle avait moins
22,5. Ouais, d'accord. Donc, le grand écart des températures.
Le grand écart ouais. des températures, je ne sais pas combien c'était là où vous étiez, vous.
Moins 25.
C'est donc toi, tu étais dans la campagne.
Non, c'est au nord, nord-est. Non, c'est au sud, en fait, c'est au sud d'Oslo, mais c'est près de Selkedalen.
Okay.
C'est dans une vallée.
Et justement, c'était un froid record à Oslo. Il n'a jamais fait aussi froid. Il a été enregistré moins 31,1 à Bjørnholt, qui est pas loin de Holmenkollen, si je ne me trompe pas, vendredi dernier, la fameuse nuit de vendredi à samedi, qui a donc battu les records. Sachez qu'il a aussi fait moins 43 en Suède, dans le nord. Donc là, ça commence à piquer. Quelle stratégie, comme ça, pour les nouveaux Français qui nous écoutent, qui viennent de débarquer à Oslo, qu'est-ce qu'on peut leur conseiller pour lutter
de ne pas trop sortir.
Ne sentez pas chez vous.
La laine surtout.
Ouais, les vêtements en laine, les sous-vêtements en laine.
Ouais. Un bon cache-cou, ça fait la différence.
Ouais, un bon bonnet, un bon manteau, voilà.
Parce que je sais
c'est
que...
pas ce proverbe norvégien qui dit il n'y a pas d'hiver, il n'y a que des bons vêtements.
Non,
c'est quelque chose comme ça.
Il n'y a pas de mauvais temps, mais il n'y a pas de...
Ouais, voilà, il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que des bons vêtements.
Ouais, mauvais vêtements.
Mais tu disais, Thomas, que c'était même assez très... Enfin, c'était plutôt froid pour même les Norvégiens.
Oui, même pour moi. moi, j'ai habité au nord de la Norvège aussi, à Tromsø. Mais là, c'est... Il fait froid, ça caille.
Non, et j'ai vu d'ailleurs qu'il y avait pas mal d'alertes sur le nord de la Norvège, que c'était beaucoup plus froid d'ailleurs qu'à Oslo.
Oui, surtout à Finnmark, ça dépend si on est sur la côte. C'est un climat plus...
Tempéré.
Plus tempéré. Mais dans le pays, il fait plus froid.
En tout cas, on espère que cette vague de froid s'arrête. Là, il semblerait que les températures remontent pour cette semaine et la semaine prochaine.
Ça va redescendre encore, je crois. Hein.
Ouais, ça va redescendre.
Après, la prochaine week-end, le prochain week-end.
Samedi, ça va passer à 2 degrés, mais après, ça va redescendre.
Alors, profitez bien de cette semaine.
Ouais.
Et préparez-vous. Oui, c'est vrai qu'il faut limiter ses sorties, ou en tout cas, il ne faut pas sortir mal habillé, quoi. Concrètement, si
non,
on ne veut pas...
Ça. Mais là, avec des températures proches du positif, attention, il va falloir faire très attention aux rasfareux, la neige qui tombe des toits, les Français qui viennent d'arriver, attention aux petits signaux en bord d'immeuble.
Et aussi le danger de glisser.
Ouais, on n'hésite pas à s'acheter des crampons. Et voilà, ouais. Parce que là, ça va être un petit festival.
Dans un complètement autre contexte, il y a le procès de Anders Breivik, donc le procès de Breivik qui attaque.
On passe du coq à l'âne.
On passe du coq à l'âne complètement, mais ça fait l'actualité cette semaine. Qui se retourne contre l'État de la Norvège pour dire que ben il veut pas être isolé, que c'est inhumain, etc., etc. Difficile de le défendre, Anders Breivik.
Oui, là, c'est sûr qu'en plus, en voyant les vidéos
de sa cellule, son appartement,
c'est vrai qu'on n'a pas trop envie de le plaindre, quoi.
Quel est le sentiment des Norvégiens sur cette histoire?
C'est un peu mélangé parce qu'en même temps, on a envie de les traiter comme un prisonnier. On veut que le procès soit un procès nature. C'est un procès comme les autres.
Ouais.
Enfin, c'est pas... On va pas le tuer quand même. C'est, il est en prison et il va être traité comme un prisonnier, comme les autres. Donc il a des droits quand même. Parce que on dit que c'est quelque chose à part. C'est quelque chose à part, mais en même temps c'est la raison pour laquelle on peut le condamner. Le système judiciaire.
Et c'est la première fois qu'un détenu norvégien comme ça porte plainte
Non, je pense pas. Parce que son cas, évidemment, c'est un peu spécial quand même. Il n'y a pas beaucoup de détenus comme lui, évidemment.
Ah bah non. Non, c'est un cas un peu à part.
Mais difficile de comparer.
Dans la vidéo, on voit qu'il a 3 perruches.
Oui, c'était l'information qu'il n'est pas tout seul. Il a des animaux de compagnie.
Il a 3 perruches, il a droit au Fredag Waffles.
Mais quand il a été condamné, dans le système, il est condamné en prison, il y avait tout un débat. Si on allait le traiter comme un criminel ou comme un fou.
C'est toujours un grand débat dans les prisons.
On a choisi quand même de le traiter comme un criminel. Mm. Et donc, il a des droits comme prisonnier, comme les autres. Et là, pour beaucoup de gens, moi inclus, c'est important de le traiter comme un criminel et pas comme quelque chose de très spécial qui est venu de nulle part.
Non, mais
c'est
vrai qu'il...
Parce qu'il y avait une histoire avant ces faits. Il y avait toute une histoire de l'extrême droite et tout ça. C'est pour ça qu'on l'a condamné.
Oui. Et là, il se plaint notamment de ne pas pouvoir recevoir de courrier.
Ouais.
Parce que lui, son intérêt, c'est qu'il veut monter un réseau d'extrême droite dans le monde et qu'on le censure.
Sachez qu'il s'est plusieurs fois attaqué... à ces instances. Hein, en 2016, il avait attaqué l'État en justice pour les mêmes motifs, partiellement obtenu gain de cause, mais en 2018, la Cour européenne des droits de l'homme avait jugé sa plainte irrecevable. Affaire à suivre, donc, est-ce que Breivik va avoir la possibilité d'être en contact avec d'autres détenus de sa prison, on ne sait pas.
Je pense qu'il va trouver d'autres moyens pour qu'on parle encore de lui, pour surtout pas se faire oublier, en fait. C'est ça qu'il veut, je crois. Mm.
Ça fait déjà 11 ans qu'il est en prison, donc il lui reste encore 10 ans. Enfin, je ne connais pas très bien les peines, mais apparemment, la 21 ans, c'est la peine la peine maximale. En Norvège, qui paraît très peu par rapport à ce que peut faire...
Il va être réévalué s'il est capable de sortir ou pas. Hein, Thomas, tu me dis
je ne connais pas les détails.
Ouais. Non. Mais bon, normalement, il ne sort pas. Voilà.
On n'espère pas.
A priori, on espère. Et on...
Je ne pense pas.
Ouais. je ne pense pas qu'il va sortir de si tôt.
Et la troisième nouvelle de cette émission qu'on a vue, enfin, que tu as entrevue, Valentin, c'était aujourd'hui.
Ouais, donc aujourd'hui, on a une manifestation contre l'autorisation, si j'ai bien compris, du gouvernement norvégien, en tout cas du Parlement, pour l'extraction de minéraux rares en eau profonde. Donc là, c'est du coup cette manifestation avec des militants écologiques, incluant du coup Camille Etienne, qui est une militante écologiste française. Du coup, contre cette autorisation qui a été votée par le Parlement. Donc l'autorisation a été votée par le Parlement, c'est fait là, ça a été fait aujourd'hui. Donc on avait les partis de gouvernement, donc Parti travailliste et Parti du centre, et appuyé par Parti conservateur, Parti du progrès, pour donner le feu vert à cette prospection, à cette extraction, avec l'extrême gauche qui a voté contre. À voir ce que ça va donner. L'argument qui est avancé, c'est bien sûr, c'est souvent la même chose, hein, c'est des minéraux qui sont extraits là, sont voués à être utilisés pour la transition écologique, enfin la conversion du... des voitures à l'électricité. Donc c'est donc contre d'autres arguments qui s'opposent, qui sont bah, si on veut véritablement faire une transition écologique, il faut plutôt opter pour le recyclage et la réduction de la consommation et notre standard de vie.
Très bien. Merci pour ces petites infos, Valentin. On vous tiendra au courant si l'affaire évolue hein, par rapport aux ces manifestations.
Ouais, il y a des choses à dire sur la Norvège, de toute façon, au niveau des terres rares. On voit ça. Ça peut être l'objet d'une chronique, effectivement.
Ouais. Tout à fait. Et sans transition, on va parler de ce qui s'est passé l'année dernière, en 2023, ouais. Avec le prix Nobel de la paix. Tu vas nous en dire deux mots, Stan.
Alors, donc, je suppose qu'autour de la table, tout le monde a déjà entendu parler du prix Nobel de la paix, au moins une fois,
oui.
Ce qui se déroule à Oslo. Il faut savoir qu'il y a un prix Nobel à Oslo et tous les autres sont à Stockholm. Alors, pouvez-vous me nommer les autres prix Nobel ?
La physique ?
Oui.
Ouais, maths ?
Non, il n'y a pas maths.
Chimie, oui. Biologie,
littérature, chimie, bien sûr. Littérature, bien sûr. Voilà, un lauréat norvégien cette année.
Quoi d'autre?
Il en manque un.
Économie.
Ah bah oui, l'économie. Oui, bien sûr.
Puis il y avait la médecine aussi. Donc le prix Nobel de la paix a été fondé par Alfred Nobel. Donc c'était un ingénieur chimiste, c'était un inventeur qui a fini, on va dire, philanthrope à la fin de sa vie. Donc il est vraiment né en 1833, il est mort en 1896. Il faut savoir qu'à la fin de sa vie, donc, il s'intéresse de plus en plus à la paix dans le monde et décide de léguer donc, toute sa fortune à la création des 5 prix, donc les 4 à Stockholm et 1 à Oslo. De son vivant, sa fortune était estimée à plus de 150 millions d'euros, donc 1 milliard 750 millions de couronnes environ. Et il faut savoir que cet argent en fait, est utilisé chaque année pour le prix Nobel de la paix, donc ça veut dire qu'ils sont autosuffisants. Donc cet argent est investi et ils ne prennent aucun argent à l'État norvégien, etc. Donc il y a toujours l'argent de son époque. Et le prix Nobel n'a aucun lien avec l'État norvégien, c'est-à-dire que les membres du comité sont purement indépendants et donc l'État n'a aucun droit de regard sur leurs décisions. Nobel, en 1895, il a écrit son testament donc, dans son bureau qui était situé à Paris, rue de Rivoli. Et pour la petite anecdote, il est écrit dans le même immeuble qui aujourd'hui regroupe un cercle suédo-norvégien, donc un peu restaurant, etc. Donc il avait écrit, c'était son bureau à l'époque et c'est toujours un cercle suédo-norvégien. C'est lui qui a décidé que le prix Nobel de la paix aurait lieu tous les ans. Son vœu était que ce prix sera décerné à celui ou celle ayant le plus ou le mieux contribué au rapprochement des peuples, à la suppression ou à la réduction des armées permanentes, à la réunion et à la propagation des congrès pacifistes. Donc, il voulait vraiment que ça soit complètement pacifiste. Et donc, le premier a eu lieu en 1901 à Oslo. Et vous allez me demander, pourquoi un prix Nobel à Oslo et 4 en Suède ? Eh bien, c'est une bonne question, parce qu'on n'a pas la réponse. Il y a des théories. Alors, il faut savoir qu'en 1905, je crois, en fait, le royaume suédo-norvégien se sépare. Mais lui est mort en 96, donc peut-être qu'il était visionnaire. 9 ans après sa mort, il y a eu le royaume qui s'est détaché. Et donc la Norvège, on va dire, est devenue indépendante. Ouais. Quoi. Et donc aujourd'hui, en fait, qui décide des membres qui siègent au comité ? Donc c'est le Parlement norvégien qui décide qui sont les membres. Donc ils sont 5. Donc ils sont complètement indépendants, comme je l'ai dit. Et ils sont en fait tous issus de partis politiques norvégiens, donc différents. Donc... il y a une mixité dans les idéologies, etc., à l'intérieur. C'est assez flou, mais une des conditions, en fait, pour lequel un membre peut siéger dans le comité, qu'il ne doit pas être actif politiquement dans le Parlement norvégien de manière active, de manière à ne pas influencer les décisions qui sont prises à l'intérieur et qui sont complètement secrètes, en fait, pendant 50 ans. Chaque année, en fait, il y a une shortlist qui est faite par ce comité. Et vous allez me dire...
Des potentiels récipiendaires du prix.
Exactement. Oui. Et petite anecdote, cette année, il y avait 350 personnes sur la shortlist. Mais bien sûr,
qui n'est pas très short, oui, du coup.
Oui,
ouais.
Qui n'est pas très short au début. Mais
il n'y a pas 100 000 plans. Quoi.
Non, c'est 100 000 ça. Prix, pardon. Ouais. Bon, en fait, on ne connaît pas donc, tous les autres, à part Narges Mohammadi, qui était sur cette liste. Donc les 349, on le saura dans 50 ans, si on ouvre les
archives. Donc on peut être nommé sans le savoir,
ah
ce que tu veux dire.
Complètement. En fait, le lauréat apprend qu'il gagne... je crois, en octobre. Et l'annonce, on l'appelle au téléphone 15 minutes avant l'annonce officielle devant la presse.
Donc, tu n'as même pas le temps de réfléchir.
Il y a ni pas d'écrire un discours, non, quoi, non. Du coup.
Et puis, c'est arrivé que les personnes n'ont pas répondu et donc ils ont appris en direct à la télévision qu'ils avaient gagné. En fait, ils veulent vraiment garder le secret jusqu'à la fin. Et pour ouais, c'est sympa. Ça ouais. pas été,
C'est le jour où il faut répondre aux appels passés. <C'est ça. rire>
Souviens-toi,
Thomas.
On avait dit appel masqué.
Qui a le droit de nommer des noms pour cette shortlist?
Des gens qui ont eu le prix eux-mêmes.
Oui, voilà. Bien vu. Il y a ça en première partie. D'autres idées autour de la table. Qui peut nommer les gens pour cette shortlist?
Des associations ou...
Associations, pas sûr. Alors, il y a des chefs d'État, donc les chefs d'État du monde entier peuvent proposer des noms. Ouais. Ainsi que certains professeurs en histoire, etc., dans des grandes universités à travers le monde, peuvent désigner un candidat. Ça, c'est la première shortlist qui est faite avant, on va dire, avant Noël pour l'année d'après. Et après, en janvier, il y a le comité qui se réunit. Et en fait, eux rajoutent certains noms ou pas, s'il y a besoin, en fonction à cette shortlist. Et après janvier, donc le 31, la liste est bouclée. Donc, il y a une liste de 350 noms. Et donc, ils ont toute l'année pour...
Pour débattre
et pour faire des recherches et pour éliminer des gens, quoi. En mars, il ne restera plus que 20 ou 30 noms sur la liste.
Ah oui, d'accord. J'ai une question. Est-ce qu'on peut avoir le prix Nobel à titre posthume?
Je ne crois pas. Bonne question. Et je ne suis pas sûr. En tout cas, je n'ai pas d'exemple précis qui m'arrive là en tête. Et en fait, cette période de temps va permettre aux membres de faire des recherches sur cette personne, etc. Et de aussi voir son passé pour être sûr de nommer des personnes bienveillantes aussi. Parce qu'il y a eu, une histoire aussi, notamment avec un dirigeant africain qui a gagné le prix Nobel de la paix. Et après, il y a eu certaines complications dans le pays. Et donc,
oui, ça faisait un peu tâche.
Voilà, et ça, ouais. et ça a relevé le débat. Est-ce qu'on devrait enlever le prix Nobel de la paix après l'avoir reçu ou pas, si jamais? Et en fait,
on n'est plus émérite.
Ben, ouais. C'est ça. Et le comité, en fait, tient une ligne qui est de la personne gagne le prix pour son travail effectué dans une telle période. Mais après qu'il a gagné, le comité n'est plus responsable. Ouais. Voilà. Donc on peut réécrire l'histoire. Quand même.
Et moi, j'ai trouvé la réponse. Donc, on ne peut pas remettre un prix Nobel à titre posthume, sauf si la mort survient après l'annonce du nom du lauréat.
Oui, donc si tu meurs
donc,
entre octobre
et... il a les 15 minutes. S'il a une crise cardiaque au milieu de... au moment du prix, c'est pas de bol et il aura le prix quand même.
On ne leur souhaite pas.
Non, on ne souhaite ça à personne, absolument personne.
Il faut savoir que j'ai un petit fun fact par rapport à ça. En fait, il y a pas mal d'hommes politiques dans le monde qui, en fait, prétendent avoir été nommés sur la shortlist, alors qu'on ne peut pas vraiment savoir parce qu'elle n'est pas officielle et que les noms n'ont pas lieu. Mais il y avait une histoire avec un Norvégien qui siégeait au Parlement qui, lui, avait dit publiquement qu'il avait nommé Trump, mais on ne pouvait pas le confirmer officiellement. Et donc, Trump l'a utilisé dans certains de ses discours en disant... Voilà,
il avait besoin que de ça, Trump, ouais.
Exactement. Et j'ai un deuxième exemple, notamment au Pakistan, où un candidat pour la présidentielle disait, lors de ses discours, « Oui, je suis dans la shortlist, etc. »
Donc, c'est vrai que le Pakistan, bien connu pour...
Bah, exactement, pour tout ce qui est paix. Etc.
Voilà, ouais, pour son engagement contre la paix.
Et en fait, des journalistes pakistanais ont appelé le prix pour savoir si c'était vrai ou pas, et ils n'ont pas pu...
Non.
Ils ont le droit de rien dire.
Secret.
Quoi. Donc ils n'ont pas pu affirmer ou non. Ça.
Et alors par rapport à cette année, donc parle-nous de la lauréate.
Alors donc cette année, c'est Norgès. Alors juste touche un petit mot par rapport à il y a deux ans. En fait, il faut savoir que lors de la guerre ukraino-russe, donc le gagnant c'était Dimitri Muratov. Donc c'était un journaliste russe et en fait il a décidé de revendre sa médaille. Donc faut savoir que quand on gagne le prix, on gagne. C'est une question sur un questionnaire que j'ai fait à la fin, donc je ne vais pas vous dire ce qu'on gagne, mais on gagne une médaille en or, plus autre chose. Et il faut savoir qu'il a décidé de revendre sa médaille en or aux enchères afin de soutenir les enfants ukrainiens impliqués dans la guerre, etc., touchés par cette guerre. Et en fait, elle s'est vendue à plus de 100 millions d'euros, 100 millions de dollars. Et donc, c'est un record, c'est jamais arrivé, quoi. Donc,
un beau geste.
Et on ne connaît pas l'heureux acheteur. C'est resté confidentiel. Oui, donc pour cette année, donc c'était d'actualité, bien sûr, c'est Narges Mohammadi, donc qui est une militante et journaliste iranienne. On va dire que c'est l'un des principaux visages de la contestation de la condition des femmes en Iran et du mouvement Femmes, Vie, Liberté. Donc elle est connue notamment pour s'être fortement opposée au port du voile dans le pays. Elle est devenue, c'est une figure qui est devenue connue après la mort de Mahsa Amini, qui a été tuée par des policiers pour avoir porté son voile de manière incorrecte, on va dire, dans la rue. Et donc qui a été battue à mort, et ce qui a soulevé un énorme mouvement de contestation en Iran. Donc Narges Mohammadi, elle a été condamnée 5 fois à un total de plus de 30 ans de prison. Donc là, actuellement, elle croupit dans les loges de Téhéran pendant qu'elle a reçu le prix. Donc il faut savoir que on l'a informée, mais elle a pu quand même écrire son discours et le transmettre à ses enfants. Parce qu'il faut savoir qu'elle n'était pas présente lors de la cérémonie.
Oui, bah évidemment.
Mais c'est ça. Donc il y avait un portrait d'elle sur une chaise vide, donc très fort, avec ses deux enfants, Kiana et Ali, donc, qui ont tous les deux 17 ans. Ce sont des jumeaux et ils sont... ils habitent à Paris et ils parlent. Donc, ils sont venus réfugiés à Paris quand ils avaient 7 ans. Et donc, ils ont fait leur discours devant la famille royale et tous les membres de Stortinget à l'hôtel de ville le 10 décembre, le jour de la mort d'Alfred Nobel, en français. Et donc, c'était marrant de voir dans la salle ceux qui portaient le casque ou non pour la traduction et ceux qui comprenaient le français. Apparemment, la princesse, je crois, parle français. Et voilà, donc elle a réussi à transmettre son discours depuis les geôles de prison. Mais malheureusement, en fait, depuis qu'elle a gagné ce prix, on pourrait se dire oui, ça lui offre une forme de protection. Mais en fait, c'est plus compliqué que ça. Ils lui ont supprimé son téléphone récemment, etc. Elle est menacée d'un nouveau procès. Elle avait entamé une grève de la faim en décembre. En fait, le gouvernement iranien a dit voulait la transférer à l'hôpital uniquement si elle portait son voile, ce qu'elle a refusé plusieurs fois parce qu'elle a dit que la cause qu'elle défendait était plus importante que ça. Et à la fin, ils ont quand même accepté de l'emmener à l'hôpital. Mais voilà. Et en discutant en fait avec ses enfants, etc., on se rend compte que ce qu'ils disaient lors d'interview, c'est ils n'ont aucun espoir de revoir leur mère. Wow. Ils l'ont pris en compte. Ils espèrent la revoir, mais ils ne se font pas d'idées là-dessus, quoi. Ils ne l'ont pas vue depuis 6 ans, etc. En tout cas, ils continuent, surtout sa fille Kiana. Et même Ali continue de mener un peu son combat, on va dire, à distance. Et il y avait aussi son mari qui était présent lors de la cérémonie.
Et il ne nous écoute sans doute pas, mais on leur envoie toute la force possible.
Les francophones. Ouais. Et voilà, et puis comme je termine par une petite citation, comme dirait Narges Mohammadi, la victoire n'est pas facile, mais elle est certaine.
Ah, c'est beau.
C'est beau.
Et j'ai un petit quiz, justement, par rapport à ça. Donc, ma première question, c'est, savez-vous comment Alfred Nobel est-il devenu riche? Qu'est-ce qui a fait sa fortune?
Qu'est-ce qui a fait sa richesse?
C'est
un commerçant.
C'est complètement à l'opposé du prix Nobel de la paix.
C'est le dynamique.
Oui, exactement. Ouais. Et voilà, il était ingénieur et c'est lui qui a créé la dynamite. Oh. Il est issu de ventes d'armes et il a fait pas mal d'argent aussi avec les munitions.
Ah,
et
c'est quand même un comble.
Ouais. Et des investissements dans le pétrole. Et à la fin, il a décidé de devenir philanthrope et de tout reverser pour la paix. Deuxième petite question, quelle est la récompense pour le nominé du prix Nobel de la paix en plus de la médaille en or qui vaut 50 000 couronnes?
Est-ce que c'est un objet physique?
Non, c'est purement...
économique.
Oui, purement économique.
Un million d'euros.
Ouais, exactement, ouais, c'est ça.
Parce
c'est
que
ça.
J'ai entendu dire que le prix Nobel de la littérature, c'est à peu près ça.
Ah oui, ouais. Ok.
Un million d'euros,
c'est
ouais.
C'est ça, 12 millions d'euros.
Ah, ça vaut le coup, ouais.
Ça vaut le coup.
Ça vaut le coup d'essayer quand même. Ouais.
Mais du coup, dans le cas de Narges Mohammadi, oui. Comment elle va recevoir cet argent?
Eh bien, en fait, bonne question, mais elle ne recevra pas directement, donc ça va être sa famille. Faut savoir que Kiana et Ali, donc, avec leur père, vivent à Paris dans le 19e et dans des HLM, en fait. Et en fait, le fait de... Ils ont été reçus à Oslo par le protocole donc, du prix Nobel de la paix. Il faut savoir que c'est très important. Ils sont reçus comme des chefs d'État, en fait. Mm-hmm. Surtout avec le gouvernement iranien. Il y avait énormément de pression, etc. Et donc, ils étaient absolument surveillés tout le temps. Et ça a été, pour eux... Je sais pas comment ils ont pu tenir le choc, parce que ils viennent de Paris et d'un seul coup, tu te retrouves comme ça, dans une capitale où t'as pas l'habitude d'aller, etc., avec autant de gens autour de toi, autant de pression, beaucoup d'interviews devant tout le monde.
C'était difficile.
Difficile, mais ils ont bien géré, comme on dit. Et la petite dernière question.
Vas-y.
Quel âge avait la personne qui a gagné le prix Nobel de la paix le plus jeune? Quel âge elle avait?
Quel est le plus jeune lauréat du prix Nobel de la paix?
J'en sais rien. Ça vaut combien de camembert?
bah, je sais pas, la 30. Ah ouais?
Pas loin.
Mais si, il y avait la petite Afghane, c'est pas ça?
C'est ça.
Ah, oui. C'était ça, voilà.
En 2014, Malala Yousafzai.
Ah oui.
Ouais.
Voilà,
et
elle avait quel âge?
17 ans.
17
ans. Ça me semblait, il n'y a pas si longtemps.
Quoi. Ouais, une histoire aussi très marquante.
Malala, je crois que le plus vieux avait 95 ans.
Ah ouais.
Donc il est jamais trop tard.
Voilà. Exactement.
Bien, bah merci beaucoup Stan pour cette petite chronique sur le prix Nobel de la paix. On va faire une petite pause musicale. On va passer la chanson de Tilassine, Borealis.
De Sofiane Pamar, tu veux dire.
Remixé
par Tilassine. À tout de suite.
De retour dans notre émission Brisons la glace, nous avons écouté donc le remix de Tilassine, Borealis. C'était qui l'artiste déjà, Emma?
Sofiane Pamar, qui est un peu le renouveau du piano contemporain en France, donc qu'on retrouve à la fois sur des pièces classiques et à la fois pianiste pour tous les rappeurs français à peu près.
Ah oui.
Ouais, c'est un petit jeune, je sais pas, il doit avoir 25 ans.
Talentueux.
Et il est arrivé avec du classique et en fait c'est un fan de rap et donc du coup il a réussi à faire son bonhomme de chemin, donc maintenant c'est featuring Sofiane Pamar. Non, super pianiste à suivre, absolument.
Et comme autre artiste, notre invité de ce soir est un écrivain, philosophe et traducteur renommé. Durant sa carrière, il s'est attaqué à des monuments français comme Rabelais, De La Bruyère, Houellebecq, Georges Perec, Raymond Queneau ou encore Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. De la littérature jeunesse à la philosophie et au roman, Thomas Lunebeau est un linguiste, poète, traducteur hors pair et primé à de nombreuses reprises. En 2008, il a été récompensé pour sa traduction du livre pour enfants et adolescents Kif Kif Demain de Faïza Guinness. Il a reçu le prix de traduction littéraire de la Bookleben en 2011 pour son travail de traduction, un prix général. En 2014, il a été nominé pour le prix Braga pour son livre Caractère d'après De La Bruyère, basé donc le livre qui s'appelle Les Caractères, publié en 1688. Voilà. Et à l'automne dernier, il a reçu le prix Thorleif Dahls pour son travail en tant que traducteur. Bonsoir Thomas et merci.
Et comme écrivain aussi, c'est un prix pour,
pour
les deux occupations en fait. Ouais.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Merci.
On est vraiment très honorés de t'avoir parmi nous. Ma première question, je voulais commencer par le commencement avant de parler de ta carrière.
Ouais.
Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton enfance? C'était quoi la place de la lecture dans ta vie d'enfant, d'adolescent?
Oui, je lisais un peu comme tout le monde le faisait à l'époque. Surtout entre l'âge de, je ne sais pas, peut-être plus l'âge de 12, peut-être à la fin du lycée. Ouais. Je lisais pas mal, mais pas énormément comme enfant. C'est plutôt un intérêt qui s'est développé pendant mes études, surtout. Ouais, mais je commençais à lire un peu sérieusement vers la fin du lycée. Et enfin, je lisais pas énormément, mais un peu comme tout le monde. Comme tout le monde le faisait à l'époque, c'est différent maintenant.
Ouais. Ouais. Et comment la France, elle est arrivée dans ta vie?
On était assez souvent, mes parents, mes propres parents ont fait des études en Allemagne, en fait. Mais on était surtout en vacances en voiture en Europe et souvent on passait par la France aussi après l'Allemagne. Et donc on avait été parfois en France. C'était aussi la langue que j'ai choisie à l'école comme langue, comment dire.
La langue qu'on apprend après l'anglais, quoi.
Ouais, après l'anglais.
Ouais. Et j'ai commencé aussi au lycée avec le français. Mais là, après, pendant mes études, j'avais envie d'étudier la littérature. Et je voulais lire la littérature française en VO.
D'accord.
Ainsi dire. Ouais. Je voulais avoir comme un support pour des études littéraires. Mais là, je suis allé à Toulouse, d'abord pour un cours en Alliance française.
Pour apprendre le français.
Pour apprendre le français.
Ouais.
Et après, je me suis inscrit, j'ai eu des équivalences, parce que j'avais fait la première année de français à l'Université d'Oslo. Et après, j'ai eu des équivalences et je pouvais faire une licence de lettres modernes. À Toulouse,
ouais. Mirail.
Et là, c'est un peu parti parce que là, j'ai un peu approfondi mes études en littérature française avec une maîtrice sur Rabelais.
Et pourquoi, voilà. Pourquoi Rabelais?
Oui, c'est intéressant, c'est autre chose. Et là, j'avais aussi un peu d'ambition académique. Et bon, il y avait beaucoup de monde en Norvège qui connaissait Rabelais à l'époque.
D'accord.
C'est un peu pour ça aussi. Sinon, c'était vraiment quand je suis tombé dessus pendant que j'étudiais à Toulouse, c'était vraiment autre chose. C'était d'une époque complètement différente et j'avais rien lu qui ressemblait à ça. Donc, c'était le côté burlesque, bien sûr, mais aussi le côté créateur et le mélange d'un peu de tout qui m'a énormément fasciné. Donc, j'ai choisi ça comme sujet pour ma maîtrise et j'avais un peu aussi l'intention de peut-être suivre un doctorat sur Rabelais, mais ça s'est passé différemment. J'ai commencé à traduire et aussi à écrire.
Et quelle était la difficulté pour un étudiant en langue étrangère, donc parce que le français n'est pas ta langue maternelle?
Non,
comment on arrive à s'immerger comme ça dans une telle œuvre qui a des mots un peu anciens, des mots difficiles?
Quand j'entre dans le livre de Rabelais, j'entre un peu comme le français aussi, parce que je m'imagine même pour un français contemporain, c'est pas évident.
Non, on confirme, on est tous passés par Rabelais à l'école.
C'est le moyen français, c'est autre chose aussi. Donc, il fallait l'étudier. Pour tout le monde, il faut consulter les dictionnaires et c'est aussi fondé sur un tas de littérature qu'on ne connaît pas, littérature de Moyen-Âge, d'autres écrivains de la Renaissance qui est tombé dans l'oubli maintenant. Donc pour tout le monde, c'est vraiment un travail pour vraiment l'apprécier. En même temps que c'est assez amusant par rapport à d'autres écrivains de la même époque.
Est-ce que tu arrives à faire des parallèles avec la littérature norvégienne peut-être de cette époque
ou... Pas vraiment de cette époque, parce que je ne connais pas vraiment la littérature norvégienne de cette époque. Et il est vrai aussi que la France, à l'époque, avait une culture beaucoup plus vaste que la Norvège à l'époque. Bien sûr, il existe des écrivains norvégiens de la même époque, mais pas tellement quand même. Il y a quelques noms mais que je ne connais pas vraiment. Donc pour moi, c'était quelque chose de nouveau, de vraiment spécial.
Mais le paradoxe, c'est que c'est un peu une matrice, puisque Rabelais est déjà traduit pour être adapté à notre langage.
Oui,
aujourd'hui, vu qu'on a affaire à un spécialiste, combien de fois il a été traduit jusqu'à ta version?
Moi, je n'ai pas traduit ça. C'est pas moi le traducteur.
Ah oui, tu n'as pas traduit, tu as fait ta maîtrise, pardon.
J'ai écrit les avant-propos.
Ouais.
Parce qu'il n'était pas très connu en Norvège. Ouais. Donc, j'ai fait ma maîtrise sur lui. J'étais un peu le spécialiste, pas tout à fait, mais je connais l'éditeur. C'était le spécialiste qu'il pouvait consulter, lui. Donc, j'ai écrit les avant-propos pour les quatre premiers livres.
Ok.
Ouais. Mais je n'ai pas le traduit. Ma première traduction, c'était juste après ma maîtrise. C'était un poète, en fait, qui s'appelle Marc Cholodenko. Il n'est pas trop connu. Mais les premiers livres que j'ai traduits, c'était des livres de recueils de poésie. okay. dans une série qu'on fait à l'éditeur Octobre en Norvège. Cette série a été assez importante en Norvège pour introduire surtout des poètes français. Et là, j'ai traduit 5 livres dans cette série.
Ok.
Ouais. Mais et donc, j'ai commencé à traduire. Et en fait, aussi, ma femme, elle est moitié française. Ah. Son père est français. Ouais.
Donc, ça permet d'avoir des questions certains doutes linguistiques.
Au début, je l'ai consulté assez souvent.
Ouais. J'imagine.
Et c'est de là d'où c'est venu cette envie de traduire, cette envie de faire un pont entre ta culture et la culture dont tu es passionné.
Oui, disons que c'est un intérêt et c'est une passion pour la littérature et aussi une volonté d'introduire de la littérature française pour les lecteurs norvégiens. Mais aussi, c'est devenu mon boulot. On me demande de faire, faire
des traductions. Qui te demande
C'est les éditeurs. C'est les D'accord. éditeurs, ouais.
Donc, toi, tu t'es pas dit, tiens, je ferai traducteur
Je peux le faire aussi. Dans certains cas, je le fais. Mais normalement, c'est les éditeurs qui me demandent si je veux traduire ce livre ou cet autre livre. Donc,
alors, justement, on avait des questions par rapport à ça. Genre, quand tu te retrouves à traduire Houellebecq, comment on se retrouve à traduire Houellebecq? Juste une bonne relation avec un éditeur
Oui, c'est un peu ça, mais en fait...
Ou une passion pour le livre en français, déjà.
Quand il est paru la première fois en norvégien, c'était pour moi. Mais moi, j'écris une critique. De cette traduction dans un magazine littéraire.
Okay.
Et on a remarqué ça. Donc
tu trouvais la traduction pas terrible, en gros?
Non, c'est surtout... disons que c'était une critique. C'était surtout sur le livre de
Houellebecq.
Mais ouais. Disons critique, c'était plutôt un article sur ouais. sur son œuvre en total. Une introduction... de lui pour le public norvégien. Mais là, après, on m'a demandé de traduire ce qui était en fait son premier roman, Extension du domaine de la lutte, que je connaissais pas mal. Et après, j'ai traduit lui pendant quelques ans. J'ai traduit 4 livres de lui. Mais pour l'instant, il est devenu trop connu en norvégien. Ouais. Donc, on me demande de fournir les traductions trop vite. J'ai plus le temps.
D'accord.
Parce qu'on veut le sortir à peu près en même temps qu'en France.
Mais du coup, quand on traduit à un auteur aussi connu que Houellebecq, est-ce qu'on peut quand même lui envoyer un message? Je sais que ça se fait. Pour comprendre des intentions d'écriture.
Oui, bien sûr.
Pour essayer de trouver la...
Il m'est arrivé de lui envoyer un mail. Et c'est un homme poli. Il me répond.
Il n'est pas bourreux. Non. S'il a besoin d'une visio. Non.
Apparemment, non. Non, mais en fait, quand il me répond à mes mails, il a été poli. Il a essayé de comprendre aussi le problème, parce que parfois il est difficile de comprendre. On peut dire oui, c'est le sens du mot, mais même là, j'essaie de dire qu'on n'a pas ce mot en norvégien.
Mais ça n'existe pas,
Non, ça doit arriver un paquet de fois.
Et parfois, pour moi, ça peut avoir deux sens. Et il faut que vous expliquiez le sens que vous avez cherché, vous. Mais là, il m'a répondu. Mais sinon, je n'ai pas eu beaucoup de contact avec lui. Non.
On n'établit pas une relation avec
l'auteur avec lui.
Qu'on traduit.
Non, je connais le traducteur néerlandais. Lui, c'est devenu un espèce d'ami. Lui, il a fait des interviews aussi pour des magazines littéraires néerlandaises. Mais moi, j'ai seulement été le traducteur.
Si tu peux expliquer à nos auditeurs comment ça se déroule une traduction, combien de temps ça prend, quelles sont les étapes, est-ce qu'il y a des envois, des retours, est-ce que l'auteur a son droit de... de regard
sur... Non, en fait, c'est... Comment dire, c'est... Quand je suis traducteur d'un livre, c'est mon œuvre.
Ça devient ton œuvre.
Oui, ouais. Et c'est, comment dire, ma propriété artistique. Je ne sais pas d'accord. le nom exact en français. Mais donc, c'est moi qui décide le résultat, ouais. quand même. Mais le système, normalement, ça fonctionne comme ça que... c'est l'éditeur qui me demande si je veux traduire tel ou tel livre. Moi, je demande quelque temps de réfléchir, si j'ai le temps, si j'aime l'ouvrage. Si je dis oui, il faut avoir un accord sur le date de... pour rendre le manuscrit. Oui. Et pour moi, normalement, je suis assez occupé. Il me faut pas mal de temps. Il me faut quelques mois en avance. C'est pour ça que je ne peux plus traduire Houellebecq, parce que on a le manuscrit de son livre quelques mois avant la publication en France. Et donc, on ne me laisse pas assez de temps. Mais donc, je divise, on écrit le contrat et on m'envoie le livre. Je préfère travailler avec le livre ou de temps en temps le PDF aussi. C'est utile aussi d'avoir le PDF pour...
Mais le livre pour prendre des notes en prenant mais
aussi, oui, aussi. C'est ça aussi. Ouais. C'est une technologie superbe, le livre. Mais là, disons que j'essaie de mettre au moins un mois par 100 pages.
C'est quand même beaucoup. Ouais.
Ouais. Ouais, c'est quand même beaucoup.
Trois pages par jour.
Ouais.
Trois pages par jour.
Non. Ah oui, mais je travaille.
En moyenne.
Ouais, oui, c'est cinq pages par jour. Okay, c'est d'accord. 20 jours de travail.
Ah oui, ok,
par mois. Ouais.
Moi, je veux juste juste rebondir sur ce que vous avez dit par rapport à est-ce qu'il faut vraiment aimer l'œuvre pour pouvoir la traduire?
Pas tout le temps, mais...
Pas tout le temps. Ça vous est déjà arrivé, sans exemple.
C'est plus facile si on aime... et surtout si on aime le langage.
Langage.
Là, c'est vraiment le plus important. Et ce que je déteste le plus c'est le langage imprécis. Parce que là, c'est difficile de traduire. Ouais. Et surtout un langage qui est trop, disons...
Impression
oui, un peu flou, un peu avec trop de clichés qui se traduit mal en norvégien parce qu'il s'est tellement enraciné dans la langue française. Et c'est des expressions qui disent un tas de choses en français qui disent rien en norvégien.
En norvégien, ouais. Bien sûr.
Mais du coup, on parle de ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, mais... Enfin, ce que t'aimes, ce que t'aimes pas, on tutoie, c'est vrai. moi, quand on regarde les personnes que vous avez traduites, enfin, que t'as traduit, du coup, Georges Perec, Saint-Exupéry, Houellebecq, c'est des gens qui sont mal dans leur époque.
Oui.
Et du coup, c'est des choses qui vous attirent particulièrement.
Perec, c'est un auteur que j'apprécie beaucoup. Et Houellebecq aussi a été. Je ne pense pas que ses livres les plus récents que c'est meilleur, mais sinon, c'est vraiment... C'est une œuvre en total formidable qui va laisser des traces dans la littérature européenne. C'est vraiment un écrivain important qui est aussi important dans la littérature norvégienne. Mais sinon, moi, j'aime un peu de tout. Moi. Je peux aimer un peu de tout aussi. Mais c'est vrai que j'aime plus traduire mes livres préférés que n'importe quoi. Ouais. Mais parfois, c'est vrai que c'est vraiment un boulot aussi. C'est quelque chose que je fais pour gagner ma vie.
Dans le prochain épisode de Brisons la glace... Retrouvez la suite de notre entretien avec Thomas Lunebo. Nous parlerons entre autres de son travail sur Le Petit Prince de Saint-Exupéry et de sa passion pour l'écriture avec la sortie de son dernier livre, Den som jubler sist. En attendant, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et de nous laisser un petit commentaire. Votre avis nous intéresse.
Brisons la glace.